Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Lory, dont Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Marie-Claire Oumabadi. Premier temps d'une nouvelle série consacrée à l'Afrique, un continent en proie aux appétits de puissance extérieure. Afrique, continent sous influence, c'est le titre de notre nouvelle série. On parlera des nouvelles ambitions russes en Afrique. Nous parlerons bien sûr de la présence chinoise régulièrement mise en avant ces dernières années, mais qui aujourd'hui fait face, c'est vrai, à un certain nombre de résistances. Mais pour commencer, place à la France, alors qu'il y a deux semaines, les présidents français et ivoiriens annonçaient la fin du franc CFA. Fin du franc CFA, dépasser l'héritage colonial, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
À ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA.
Oui, la question du franc CFA cristallise de nombreux débats et de nombreuses critiques sur le rôle supposé de la France en Afrique. Et c'est la jeunesse africaine qui la pose. J'ai entendu à l'université à Ouagadougou les critiques qui étaient faites à la France. Je vois les réseaux sociaux, je lis la presse et je vois votre jeunesse qui nous reproche en quelque sorte de continuer une relation économique et monétaire qu'elle juge, je les cite, comme post-coloniale. Rompons les amarres. La France n'a rien à cacher.
Le 21 décembre dernier, en visite à Abidjan, Emmanuel Macron annonçait avec le président ivoirien Alassane Ouattara la fin du franc CFA pour 8 des 14 pays de la zone franc. La disparition de cette monnaie apparaît comme le symbole d'une rupture des liens qui unissaient la France avec ses anciennes colonies. Rappelons que CFA signifiait à sa création, en tout cas en 1945, colonie française d'Afrique avant de devenir en 58 la communauté française d'Afrique. Mais cette annonce augure-t-elle d'une vraie rupture? S'inscrit-elle dans un réel désir d'en finir avec des pratiques d'ingérence justifiées au nom de l'histoire? En théorie, elle est dans la droite ligne du discours d'Emmanuel Macron qui, en 2017, à Ouagadougou, affirmait vouloir se défaire des héritages coloniaux et ambitionnait de construire une relation nouvelle avec le continent. Mais, dans les faits, ce renouveau n'est peut-être pas aussi flagrant comme on le voit notamment dans le domaine sécuritaire où Paris continue de revendiquer un rôle spécial auprès des États du G5 Sahel dans leur lutte contre les groupes armés malgré la défiance croissante des populations locales vis-à-vis de cet interventionnisme français. Alors que l'on s'apprête à commémorer les 60 ans des indépendances des pays de la zone subsaharienne, la disparition du franc CFA ne serait-elle qu'un paravent pour masquer une certaine permanence des liens entre la France et ses anciennes colonies? Pour évoquer ces sujets, nous avons invité ce matin Caroline Roussy. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en histoire de l'Afrique contemporaine, chercheuse à l'Institut des Relations internationales et stratégiques et responsable du programme Afrique. Et vous avez participé à un ouvrage collectif qui a été dirigé par Kako Nubukbo, qui est l'urgence africaine, qui n'est pas un ouvrage collectif?
Non, c'est pas un ouvrage collectif, c'est un ouvrage signé par Kako Nubukbo.
Auquel vous avez participé?
Auquel j'ai participé.
Donc voilà. Un collectif de deux?
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai co-signé deux chapitres.
Très bien. Donc, c'est un ouvrage collectif. Chez Odile Jacob, en 2019. Christophe Boisbouvier, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, directeur adjoint de RFI, chargé de l'Afrique. Vous aviez écrit, vous, au Land l'Africain. Que vous inspire cette annonce? On va commencer avec vous, Caroline Roussy. Est-ce que c'est le dernier vestige de la France-Afrique qui s'effondre? Ou est-ce que la portée symbolique de la chose masque une réalité tout autre?
Alors, je pense que c'est une portée est bien évidemment symbolique, mais que les liens entre la France et l'Afrique restent éminemment nombreux et complexes. Moi, je voudrais quand même revenir sur cette déclaration d'Emmanuel Macron le 21 décembre 2019, qui dénote une évolution par rapport à son discours prononcé à Ouagadougou en novembre 2017, lors duquel il avait annoncé que le franc CFA était un non-sujet pour la France. Je cite et je reviens à ce discours considéré comme fondateur. À l'attention d'un étudiant qui donc l'a interrogé sur cette question. La dénomination franc de cette monnaie ne devrait pas être obsessionnelle sur ce sujet n'ayez pas une approche bêtement postcoloniale ou anti-impérialiste. 2017, 2019, on voit bien une évolution, on voit bien qu'effectivement il y a eu une pression conjuguée des militants, des jeunes, mais aussi des intellectuels dont Kako Nubukpo, et qu'effectivement il s'est retrouvé aussi dans une conjoncture assez particulière, à savoir l'arrivée de puissances régionales telles que la Chine et la Russie, qui font qu'à un moment donné, il n'a pas eu d'autre option que de changer de braquet.
Christophe Boisbouvier, comment vous voyez justement, vous, cette évolution, j'allais dire cette révolution, peut-être pas, cette évolution en tout cas, il y a effectivement la pression d'intellectuels, d'économistes africains, il y a la pression aussi des citoyens, parce que c'est vrai qu'il y a des mobilisations régulièrement autour de cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peut-être expliquent que là, il y a 15 jours maintenant, Emmanuel Macron a pris cette décision?
En fait, il y a eu des précurseurs. Dès les années Mitterrand, Chirac, vous avez des précurseurs comme l'universitaire économiste ivoirien Mamadou Koulibaly, qui sera un temps président de l'Assemblée nationale sous la présidence Gbagbo, qui théorise la fin du franc CFA. Vous avez, lors de l'arrivée de François Hollande au pouvoir, vous avez des gens au sein du Parti Socialiste français qui commencent à penser à la fin du franc CFA, y compris le futur conseiller élyséen Thomas Mélogno, mais surtout le franco-togolais Kofi Yamnian.
Et pourquoi ils y vont pas?
François Hollande n'ose pas faire le pas, notamment sous la pression des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui ont peur de la réforme. On arrive donc à Emmanuel Macron et Caroline Roussy en parlait à l'instant, il y a ce discours de Ouaga de novembre 2017 où je pense que le président français fait le pari de faire pas mal de réformes symboliques, de réformes fortes, comme la restitution des biens culturels africains, je crois qu'on va y revenir plus tard,
on y reviendra.
Pour ne pas faire de réformes fondamentales. Il se dit peut-être qu'avec mon discours très nouveau monde, avec une certaine spontanéité, l'idée que j'accepte toutes les questions qui viennent de la salle, l'idée qu'il n'y a pas de questions tabou, peut-être que je vais pouvoir maintenir le pilier de la France-Afrique qu'est le franc CFA, parce que je vais faire avaler la couleuvre, entre guillemets. Voilà. Et deux ans plus tard, il s'aperçoit que non. Eh ben, les gens n'avalent pas la couleuvre et que ça passe pas et que le franc CFA reste pour une grande majorité d'intellectuels africains un vrai problème qui s'accroît au fil du temps, plus de 60 ans, vous l'avez rappelé, après les indépendances. Et on en arrive donc à ce 21 décembre dernier.
Caroline Roussy, est-ce que ce n'est que cette ambition, effectivement, de couper un lien avec les États africains, ou est-ce qu'il y a aussi autre chose? Il y a un certain nombre de voix du côté de l'Afrique qui s'élèvent pour dire qu'en réalité, cette décision, elle vise aussi à court-circuiter le projet de monnaie unique qui était porté depuis longtemps maintenant, depuis les années 80 par la CEDEAO. Certains disent, en réalité, Emmanuel Macron précipite un peu les choses pour justement mettre à mal un peu ce projet de monnaie unique.
Alors, moi je crois que c'est là
un faux procès.
Dans le sens où, évidemment, quand on change de monnaie, il y a un processus séquencé et donc différents scénarios qui doivent être envisagés. Le premier est effectivement l'adoption de cette monnaie éco, d'ailleurs qui, étrangement, dans la langue française, prend un E accent aigu, alors que le mot éco vient de ECOWAS, qui est donc une réduction de cette ECOWAS, qui est la version anglaise de l'acronyme CEDEAO. Donc c'est peut-être un premier pas donc d'adoption de cette éco au niveau de la zone France CFA, puis une évolution et une adoption au niveau de l'ensemble des pays membres de la CEDEAO. Donc voilà, le changement de monnaie dans des économies qui sont déjà extrêmement fragiles nécessite bien évidemment de séquencer les différents processus et d'avoir des agendas clairs. Pour l'instant, je note que ces agendas ne sont pas encore tout à fait clairs et que eh bien, les échéances n'apparaissent pas encore clairement.
Oui, puis on ne sait pas exactement comment va s'organiser cet écho. Est-ce qu'il va être adossé à l'euro? Est-ce qu'il va être adossé à un panier de monnaie? Il y a encore un certain nombre de points qui ne sont pas tout à fait clairs. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir. Mais Christophe Boisbouvier, il se dit aussi que du côté des États africains, on n'était pas forcément extrêmement prompt à enclencher cette évolution, que en tout cas, un certain nombre aurait un peu ralenti la chose, considérant qu'il n'était peut-être pas tout à fait prêt à la gérer. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'effectivement, il y a des États qui...
Il y a le traumatisme. Qu'on va vite. Ouais, il y a le traumatisme de 1994.
Alors rappelez-le.
Ouais, peut-être. C'est historique. Hein, c'est la dévaluation de 50% du franc CFA par rapport à ce qui était à l'époque le franc français, ce qui a fait perdre la moitié de leur pouvoir d'achat à des millions d'Africains francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Parce qu'on y reviendra, mais il y a aussi l'Afrique centrale qui est concernée et la République des Comores. Pas concernée immédiatement, mais un peu plus tard. Donc, si vous voulez, la grande peur d'un certain nombre de chefs d'État des 8 pays CFA d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'avec... la réforme du franc CFA, le passage du CFA à l'écho, il y a une crise de confiance chez les détenteurs du franc CFA, que beaucoup de détenteurs se débarrassent de leur franc CFA pour acheter des devises fortes comme le dollar ou l'euro, et que du coup ça provoque une dévaluation rampante du franc CFA, futur écho, et du coup une perte du pouvoir d'achat pour un certain nombre de gens concernés, et pour un président ivoirien comme Alassane Ouattara, qui est en pré-campagne électorale, hein, puisque la présidentielle c'est en octobre prochain, ce serait évidemment catastrophique un tel scénario. Donc voilà pourquoi pendant des années, auprès de François Hollande puis d'Emmanuel Macron, un certain nombre de chefs d'État africains ont dit il est urgent de ne pas réformer trop vite. Ouais. Malgré la pression, on parlait de Kakonu Bukpo, mais de bien d'autres africains, y compris d'ailleurs de chefs d'État comme Idriss Déby, le Tchadien, qui disaient il faut réformer tout ça.
Caroline Roussy, est-ce que du côté des États africains, parce que ça va être évidemment aussi un défi technique, il va falloir prendre à sa charge une politique monétaire, et jusqu'ici c'est vrai qu'on n'avait pas encore forcément, c'est pas quelque chose auquel on était habitué, est-ce qu'on va pouvoir le faire? Je veux dire, est-ce que le défi technique monétaire est relevable du côté des États africains? Alors, je ne doute pas évidemment qu'il y ait les compétences, mais il n'y a peut-être pas l'expérience nécessaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il faut être tout à fait rassuré et se dire que oui, il n'y a aucun problème, tous les pays africains vont pouvoir gérer cette politique monétaire demain, ou est-ce qu'il y a quand même quelques craintes à avoir?
Alors, quand il y a un changement, il y a toujours un risque. Ouais. Mais je crois aujourd'hui, justement, si on veut changer de paradigme et de notre relation, de notre manière d'être en tant que France à l'égard des pays africains, il faut faire confiance. Voilà. Et je pense que les compétences sont là. Peut-être qu'il y aura des trébuchements, peut-être qu'il y aura des grandes réussites. De toute façon, j'imagine que dans les semaines à venir, un certain nombre de groupes de réflexion pourront être mis en place de sorte à définir des scénarios prospectifs et d'envisager évidemment un certain nombre d'obstacles, voire de difficultés à venir. Tout en sachant que bien évidemment on ne peut tout anticiper.
Est-ce qu'on sort réellement, complètement, pleinement de la tutelle économique, financière, monétaire, budgétaire, etc., etc. Il y avait un papier très intéressant qui a été publié la semaine dernière d'un économiste sénégalais qui s'appelle Dongo Sambasila sur Mediapart, qui disait que en réalité cette tutelle monétaire française, elle ne disparaît pas complètement.
Écoutez, à l'heure actuelle, nous sommes donc dans une phase transitoire. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas larguer les amarres du jour au lendemain et qu'il faut justement une phase d'accompagnement qui permette justement cette stabilité sur le court et les moyens termes, le temps que cette nouvelle monnaie puisse être définie et se mettre en place, tout en sachant, comme vous l'avez souligné, qu'il y a des sujets extrêmement techniques à régler, comme la parité fixe éco-euro ou l'ouverture à un éventuel panier monétaire.
Voilà, parce que si on reste dans une situation de parité fixe avec l'euro, et c'est ce que dit d'ailleurs Nongo Samba Sila dans son papier publié dans Mediapart, c'est qu'en réalité, les réserves de change qui vont servir d'abord et avant tout précisément à défendre cette parité pour éviter l'inflation et que du coup de fait il restera quand même ce lien indirect, sans compter par ailleurs, précise-t-il, que les accords de coopération monétaire avec la France perdurent. Donc là il y a quand même un lien qui semble rester, perdurer. Christophe Boisbouvier.
Il y a deux choses qui changent et il y a deux choses qui restent. Ce qui change, c'est la fin de l'obligation pour les pays, les 8 pays CFA d'Afrique de l'Ouest de déposer la moitié de leurs réserves monétaires auprès du Trésor français. Maintenant, elles peuvent déposer leurs réserves où elles veulent. Voilà. Donc il n'y a plus cette tutelle financière de la France sur ce point de vue-là. Et il y a la fin de la présence des hauts fonctionnaires français au conseil d'administration de la BCEAO, la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et de toutes les instances de gouvernance de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc là, il y a aussi la fin de cette tutelle physique. Donc ça, c'est deux choses qui changent. Il y a deux choses qui ne changent pas, en revanche, en effet. C'est le fait que le futur écho de l'Afrique de l'Ouest reste en parité avec l'euro, parité fixe, pas parité flottante. Parité
ça, c'est pas encore
fixe.
Défini, ça.
Si, pour l'instant, c'est défini, absolument. Ça a été dit le 21 décembre à Abidjan. Et deux, c'est le fait que la France, en cas de perte de ses réserves par la future zone éco, reste garante en dernier ressort. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, ce même 21 décembre, au micro de RFI. C'est-à-dire que si jamais il y a une crise financière grave qui affecte les 8 pays ex-CFA, la France garde une ligne de crédit à la Banque de France pour éponger le trou qui pourrait survenir dans les caisses de la BCEAO. Donc de fait,
c'est par pure bienveillance, si je puis dire, ou en échange on a quelque chose.
c'est tout le sujet du débat de ce matin.
Caroline Roussy.
Écoutez, je pense qu'il y a toujours des intérêts sous-jacents. Ne soyons pas naïfs. Néanmoins, je pense qu'on peut pas s'enfermer toujours dans un système perdant-perdant. Si la France était partie en disant, comme l'avait dit le président Macron lors de ce fameux discours de Ouagadougou, eh bien écoutez, la porte est ouverte. Je pense que cela aurait aussi pu créer des frustrations du côté et des ressentiments du côté africain. Et on sait aujourd'hui que ces ressentiments anti-français sont nombreux et que cet accompagnement, au moins dans un temps limité, s'avère nécessaire. Donc voilà, je souhaiterais insister sur deux points, confiance et accompagnement.
Vous parlez du sentiment anti-français. Je voudrais vous faire écouter un témoignage et puis ensuite on passera à la question sécuritaire, militaire. Un témoignage, celui d'un homme qui est très connu, qui est un chanteur malien parfaitement connu, qui s'appelle Salif Keïta. Vous parliez du sentiment anti-français, écoutez.
Moi je dis la vérité, tout ce qui arrive au Mali, c'est les Français. C'est les Français. Toutes les attaques sont perpétrées, montées par la France. Parce que la France est un pays esclavagiste. Ils n'ont jamais, jamais libéré les colonies. Ils les torturent d'une autre manière. Même les présidents que vous voyez qui sont obligés souvent de faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Parce que si tu essaies de faire autre chose qu'ils veulent, ou ils t'assassinent, ou ils te tuent, ou ils te font trahir par tes propres compatriotes. Donc, en sorte, les colonies françaises sont torturées.
Voilà, donc Salif Keïta, c'était le 28 novembre, c'est ça, 24 novembre dernier, pour le site Sénéweb, site sénégalais. Au-delà de la question sécuritaire, de l'interventionnisme français, de l'intervention française au Mali, dont on va parler assez largement, si on regarde justement ce sentiment anti-français, comment est-ce que vous le voyez évoluer ces dernières années? Est-ce qu'il vous semble que, globalement, les choses s'apaisent, ou est-ce que au contraire, il est dans une très mauvaise dynamique? Christophe Boisbouvier et ensuite Caroline Roussy.
En fait, la France, elle paye son passé colonial, faut pas se mentir. C'est-à-dire qu'il y a une centaine d'années d'occupation coloniale par la France dans ces pays-là, qui fait qu'aujourd'hui, quand ça va pas, la France reste le bouc émissaire. Voilà, quand ça va pas sur le plan financier, c'est de la faute de la France et notamment du franc CFA. Quand ça va pas sur le plan économique et quand ça va pas sur le plan sécuritaire, c'est aussi la faute de la France.
Mais vous pensez que ça restera quelle que soit la situation? Je veux dire, on enlève le franc CFA, on retire les soldats français, quoi qu'il arrive, quand ça ira mal en Afrique, toujours, on reviendra à cette période-là et il y aura cette situation où, au fond, la France devient le bouc émissaire?
Il est évident que si demain les soldats français quittent le Sahel, on pourra plus accuser la France de quoi que ce soit dans le domaine sécuritaire. Sur le franc CFA, pour en finir avec cet aspect-là du débat, vous avez raison, la France y trouve son intérêt, le fait de garder un arrimage entre l'ex-franc CFA et l'euro, ça permet à la France de maintenir son influence. Mais je crois que l'enjeu véritable, et vous l'avez évoqué au début de l'émission, c'est le passage à une monnaie unique des 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Parce que vous avez déjà le Ghana qui se dit intéressé par la réforme du franc CFA et sa volonté de passer, de rentrer dans la future zone éco aux côtés des 8 pays ex-CFA. Si demain le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et peut-être un jour le géant Nigérian rentre dans ce futur écho, là, ça sera définitivement terminé de l'influence monétaire de la France sur les pays d'Afrique de l'Ouest.
Sauf que pour l'instant, on n'y est pas, et notamment, on n'y est pas visiblement, si j'ai bien compris en préparant cette émission, parce que les critères qu'on a retenus pour la mise en place de cette monnaie commune ne permettent pas aux pays concernés, c'est-à-dire les 8 pays qui utilisent aujourd'hui le franc CFA, plus les 7 autres qui ont une monnaie nationale, ne permettent pas à ces pays, justement, d'intégrer cet ensemble, ce nouvel ensemble monétaire, Caroline Roussy.
Oui, tout à fait. Alors moi, je voulais juste rebondir sur ce que Monsieur Boisbauvier venait de dire concernant la faute originelle coloniale de la France. Moi, je pense que le malaise est beaucoup plus profond. Oui, il y a cette colonisation, ce passé qui ne passe pas. Mais en 2020, comme vous l'avez souligné en début d'émission, nous célébrerons les 60 ans d'indépendance dans un certain nombre de pays. Je pense que ce malaise, il est beaucoup plus profond, à savoir que le comportement des gouvernements français, des gouvernants français, sont toujours marqués au fait de cet état d'esprit colonialiste. Je voudrais citer quelques exemples. Emmanuel Macron qui convoque les chefs d'État africains lors d'un sommet à Pau. Je voudrais encore convoquer un autre fait d'armes lorsque à Ouagadougou, alors que Roch Kabore visiblement s'est levé, il l'interpelle d'un air un peu goguenard.
Le président burkinabé, pardon.
Oui, excusez-moi.
Non, je vous en prie pour les auditeurs, je précise.
D'un air un peu goguenard en disant « Ah, reviens, il est parti réparer la clim ». Ce qui est quand même outrageant à l'égard d'un président, surtout dans un pays où la culture...
Tout le monde n'avait pas eu la même interprétation sur cet événement-là. J'entends qu'il y avait eu ce volet-là, mais ensuite les choses avaient été peut-être vues un peu différemment, parce que c'était dans un ensemble où il s'était par ailleurs tutoyé un peu avant, etc.
Oui, mais c'est ce qui donne quand même une impression un petit peu bizarre. Et puis, de toute façon, il faut quand même savoir que cette morgue, cette arrogance française est quand même très largement critiquée. Il faut savoir que ça s'inscrit dans une tradition française. On peut rappeler aussi le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy en 2007, lorsqu'il dit que l'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Je crois que c'est pas seulement la colonisation qui est à solder, mais c'est aussi une manière de faire, dans le sens de Michel de Certeau, une manière d'être aux Africains qui doit aussi être revu, mais de manière non pas conjoncturelle, quand on dit la colonisation est une faute de la République, mais que les choses soient revues de manière structurelle et donc en profondeur.
Et pas seulement dans les discours. Passons au volet militaire. Il faut rappeler que la France est évidemment engagée militairement au Sahel. Aujourd'hui, 4500 militaires sont déployés au Burkina, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Tchad, dans le cadre de cette opération Barkhane, qui en 2014 prenait la suite de l'opération Serval, lancée en 2013 à la demande des autorités maliennes de l'époque. Écoutez François Hollande.
Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie.
Voilà, une opération qui est loin d'être une réussite, puisque, et on peut même parler d'un échec assez patent, puisque les groupes ne cessent de progresser. Christophe Boisbouvier, le 13 janvier prochain, dans quelques jours, Emmanuel Macron va accueillir à Pau les chefs d'État du G5 Sahel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que seront les enjeux de ce sommet ? Qu'attend Emmanuel Macron de ses homologues et inversement ?
L'enjeu, il est d'abord politique. Petit exemple, nous sommes en septembre dernier. Les djihadistes sont sur le point de s'emparer d'une capitale provinciale du nord du Burkina Faso, qui s'appelle Djibo, dans le Soum. Et le président Roch Kaboré du Burkina appelle les Français à la rescousse, qui vont arriver in extremis pour empêcher la prise de cette ville. Mais il ne faut pas en parler. C'est-à-dire que le président du Burkina demande à la France de taire son intervention militaire en faveur donc de son propre pays, parce que ça passerait mal dans son opinion publique. Ok, les Français édulcorent leur responsabilité dans ce succès militaire momentané pour ne pas froisser la susceptibilité du gouvernement burkinabé. Et puis arrive... deux mois plus tard, l'accident d'hélicoptère que vous savez, 13 soldats français tués lors d'une opération anti-djihadiste dans le nord-est du Mali. Et là, je pense qu'il y a eu une sorte de sentiment de « c'est assez », quoi, de ras-le-bol, ouais, quoi, de la part des autorités françaises, Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, c'est-à-dire « ok, on veut bien... aller au front, y compris perdre 13 de nos hommes, mais au moins qu'il n'y ait pas ce double langage des autorités sahéliennes. Un ministre burkinabé, le ministre de la Défense, a dit dans une interview à la presse sud-africaine en juillet, mais est-ce que les Français font vraiment tout ce qu'il faut pour lutter contre le djihadisme ? Sous-entendu, ils ont peut-être un agenda caché. C'est ce double langage qui explique cette fameuse réunion de lundi prochain à Pau.
Ce double langage, justement, Caroline Roussy, en quelques mots, je vais citer quand même un extrait de ce que justement Emmanuel Macron disait à Abidjan. Je ne peux pas demander à nos soldats de prendre des risques pour lutter contre le terrorisme et la sécurité de pays, et de l'autre, avoir des opinions publiques de ces mêmes pays qui croient à des contre-vérités auxquelles on laisse croire. Souhaitent-ils notre présence ? Ont-ils besoin de nous ? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Est-ce que les pays concernés sont précisément disposés à sortir de cette ambiguïté compte tenu de ce que Christophe Boisbouvier nous rappelle, c'est-à-dire cette pression de l'opinion qui dénonce cet interventionnisme français, Caroline Roussy ?
Très franchement, je n'aurais pas de réponse univoque à vous apporter. Ouais. Parce que, comme vous pouvez l'observer, ce ressentiment anti-français, hein, qui donc s'est greffé d'abord sur le franc CFA et qui aujourd'hui se greffe justement sur l'opération Barkhane, ne cesse d'augmenter. On est dans un cycle de contestation sans précédent. Je vous rappelle également que le 10 janvier, donc soit dans quelques jours, au Mali, une manifestation est organisée et avec un appel à manifestation de 1 million de personnes justement pour le retrait des troupes françaises du Mali. Alors évidemment confronté à ces alors après on verra bien effectivement si les gens seront au rendez-vous ce 10 janvier prochain, mais confronté à ces opinions publiques, je ne sais pas dans quelle mesure les chefs d'État pourront ou non se rallier à la France ou au contraire se mettre plutôt du côté de leurs opinions publiques, étant entendu que certains ont tout intérêt évidemment à rester au pouvoir.
Il y a quelques semaines, Caroline Roussy, le général Clément Bollé avait expliqué dans une tribune au Monde que les forces françaises étaient tellement décriées, remises en cause localement, qu'elles pourraient même se retrouver obligées de quitter le terrain sous la pression populaire. C'est vraiment le cas? On a des soldats français qui ont débarqué en 2013 sous les cris de joie, je mets des guillemets, parce que peut-être nous a-t-on aussi servi un récit qui n'était pas totalement celui qui existait sur place, mais en tout cas c'est celui qu'on a vu. Et aujourd'hui, ils pourraient repartir sous les huées?
Eh bien, écoutez, la question se pose très fortement, puisque, bien évidemment, je viens de vous parler de cette manifestation organisée le 10 janvier. Je vous rappelle qu'à Ouagadougou, il y a eu une manifestation. Je vous rappelle, même si cette manifestation n'a pas eu lieu, après le massacre de 71 militaires à Inates, une manifestation également était prévue à Niamey. On voit bien que dans les différentes capitales, il y a un rejet de l'opération Barkhane. Alors après, cela veut peut-être pas dire que l'opération Barkhane est à quitter le terrain d'opération du jour au lendemain. Soyons prudents et puis rendons aussi hommage aux militaires français qui sont engagés sur le terrain au péril de leur vie. Hein. Et bien évidemment, on pense aux 13 soldats morts récemment. Peut-être qu'il y a une stratégie à repenser, et cette stratégie est peut-être à repenser, comme le général Bruno Clément Bollé l'évoquait dans sa tribune du 4 novembre dans Le Monde, à penser de manière coopérative avec les Africains et justement en se mettant peut-être en retrait. Mais là, c'est de l'ordre de la stratégie militaire qui se décidera ou qui se dessinera peut-être à l'issue du sommet de Pau.
Christophe Bouvier, j'ai vu que vous vouliez réagir, mais j'en profite pour peut-être vous lancer sur une question qui est complètement liée à tout cela. Faisons des hypothèses, parce qu'on est sûr de rien, mais dans l'hypothèse où les États du G5 Sahel seraient un peu réticents, disons-le comme ça, à assumer le fait qu'ils sont demandeurs d'une aide militaire de la France, est-ce que on peut imaginer un Emmanuel Macron qui décide de lui-même de retirer ses troupes françaises, plutôt que justement, elle soit contrainte de partir sous la pression populaire? Est-ce que vous imaginez qu'il puisse décider de ce retrait lui-même?
Alors d'abord, je crois que le sentiment anti-français qui monte, il est difficile à mesurer en termes quantitatifs, parce qu'il est surtout, pour l'instant, sur les réseaux sociaux. Et il s'exprime surtout dans la société civile. C'est-à-dire que vous n'avez pas de parti politique présent dans les différentes assemblées nationales de ces trois pays sahéliens que sont le Mali, le Niger et le Burkina, des partis qui demandent explicitement le retrait de l'armée française, ni des partis de la majorité, ni des partis de l'opposition. Régulièrement, j'interviewe des acteurs politiques de ces trois pays et je leur demande, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, est-ce que vous voulez le départ? Ils me disent non.
Hein,
tous. L'opposition burkinabé, opposition nigérienne, opposition malienne, non. Ce sont plus dans la société civile au Niger et dans les milieux islamistes au Mali, notamment auprès du HCI, le Haut Conseil islamique, qui a longtemps été dirigé par Diko, qui est un imam wahhabite qui n'aime pas les Français. Donc il faut faire attention, je pense, avant de dire qu'il y a une grande vague anti-française. C'est pas si simple. Il faut attendre. On verra, hein, la manif du 10 janvier, on verra ce que ça donne. excusez-moi pour l'atout. Ensuite, est-ce que Emmanuel Macron est prêt à faire partir les soldats français? Je crois pas. Je crois pas pour une raison toute simple, c'est que l'une des raisons qui justifie encore la présence de la France au Conseil de sécurité de l'ONU de façon permanente depuis 1946, c'est le fait que la France reste une puissance politique et militaire. et qu'il y a une sorte de partage du travail, excusez-moi pour l'expression un peu familière, entre Américains et Français contre la menace djihadiste dans le monde, et que au Sahel, c'est les Français qui font le job. Mmh. Hein. Au Moyen-Orient, c'est les Américains, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, etc. Enfin, vous connaissez les événements actuels depuis jeudi dernier. Au Sahel, il y a une sorte d'accord qui date d'Obama-Hollande. Entre Obama et Hollande, on s'est dit, vous les Français, vous faites le job au Sahel. Et entre Trump et Macron, c'est toujours la même idée. C'est toujours le même contrat entre Washington et Paris qui perdure. Et si demain, les Français se retirent du Sahel, ils vont perdre une carte dans leur plaidoyer pour rester de façon permanente au Conseil de sécurité et pour rester une puissance moyenne, voire grande.
Caroline Roussy, vous abondez dans ce sens. C'est assez difficile d'imaginer un retrait des troupes par Emmanuel Macron.
Oui, je corrobore tout à fait ce que vous venez de dire. Et moi, je voudrais vous raconter une anecdote qui concerne la Sénégambie, puisqu'il s'avère que je suis spécialiste de cette zone. En 1981, il y a eu une tentative de coup d'État et le président Abdou Diouf envoie des troupes en Gambie pour sauver le président de l'époque, qui était Daouda Diawara. Eh bien, après 8 années de présence militaire sénégalaise en territoire gambien, il y avait de véritables manifestations de contestation de cette présence militaire. Abdou Diouf finit lassé, finit par demander le retrait unilatéral du jour au lendemain des troupes militaires sénégalaises. Et qu'est-ce qu'en concluent les Gambiens ? C'est que c'est là, encore une fois, un mépris à leur endroit. Donc vous voyez, les choses ne sont pas simples et pourtant, Dieu sait que pendant ces 8 années, les critiques à l'endroit des militaires sénégalais étaient très nombreuses.
On est avec vous, Caroline Roussy, et vous, Christophe Boisbouvier, dans cette nouvelle série consacrée à l'Afrique, un continent sous influence. Aujourd'hui, fin du franc CFA, dépasser l'héritage colonial. Il est 11h36, vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va parler à présent de la question de la restitution des œuvres d'art acquises pendant la période coloniale, qui était un enjeu des nouvelles relations entre l'Afrique et la France, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron en 2017 lors de son échange avec ses étudiants burkinabés à Ouagadougou, souvenez-vous.
Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnel. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
Voilà, après ce discours, s'en était suivi tout un travail de décompte des œuvres controversées, orchestré par l'historienne Bénédicte Savoie et l'économiste Felwine Sarr. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Comment cette initiative s'inscrit-elle aussi dans une longue histoire de demandes de restitution d'œuvres d'art qui commence en réalité dès la fin de la colonisation ? Comment les débats ont évolué depuis ? Qu'est-ce que ça nous dit de notre lien à l'Afrique ? Bonjour Bénédicte Savoie.
Bonjour,
merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne de l'art, professeure au Collège de France, et vous aviez, donc je le disais à l'instant, mené ce travail avec Felwine Sarr, concentré sur des collections acquises entre 1885 et 1960, c'est-à-dire 90 000 pièces environ, et un peu plus de 70 000 pour le seul musée du Quai Branly. À l'époque de la sortie de votre rapport, Bénédicte Savoie, vos conclusions avaient été, disons-le, critiquées, en tout cas par une certaine frange, par certaines personnalités, pour plusieurs raisons. D'abord, on vous reprochait de ne pas être une spécialiste de l'art africain. On vous a reproché aussi de vouloir faire œuvre de repentance. Certains se sont aussi inquiétés de la sécurité des œuvres éventuellement restituées, leurs conditions de conservation, etc., etc. Un an après, Bénédicte Savoie, comment est-ce que vous voyez toutes ces critiques avec le recul et qu'est-ce qu'elles vous semblent révéler de la conception que se font un certain nombre de personnes sur le rapport de la France à l'Afrique ?
Un très grand merci pour cette question et pour le rappel de ce que vous appelez des critiques très nombreuses de ce rapport. Elles ont été très nombreuses en effet en France et en effet, comme vous le dites, dans une certaine frange du milieu des musées. musées peut-être, ou du marché de l'art en France. Pour moi, qui vis à Berlin depuis 25 ans, qui était en contact pendant près d'un an pour ce travail avec des collègues, des intellectuels, des activistes africains ou des diasporas africaines aux États-Unis et en Europe, pour moi et de mon point de vue, ce rapport n'a pas été critiqué. Mmh. Les critiques sont circonscrites à ce petit milieu français. Ce rapport a été en revanche accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, d'espoir, et en Allemagne notamment, où je vis donc par des mesures politiques qui ont fait avancer la question des restitutions dont vous rappeliez qu'elle est qu'elle cuit, qu'elle est sur le feu en Afrique depuis les années 60.
Alors, on reviendra peut-être sur le passé. Alors, la ligne n'est pas très bonne, mais on va miser sur le fait qu'elle va s'améliorer, et puis sinon, on vous rappellera. Mais alors, je vais me faire du coup l'avocat de ces quelques personnalités qui, effectivement, critiquaient assez largement votre rapport. Si je regarde un peu l'actualité sur ce sujet, je vois que, par exemple, il y avait... au moment de ce discours d'Emmanuel Macron, cette initiative qui consistait à rendre 26 objets au Bénin. Il se trouve que les autorités béninoises ont indiqué récemment leur souhait de repousser cette restitution, expliquant notamment qu'il fallait qu'elles organisent leur accueil, leur valorisation, avec la construction notamment d'un nouveau musée à Abomey. Ça va dans le sens de ce que disaient ces personnes, c'est-à-dire finalement ces pays ne sont pas encore en capacité et doivent rassembler les conditions d'un retour, alors même que vous précisément, dans votre rapport, vous disiez il n'y a pas de conditions de ce retour, Bénédicte Savoie.
Pardonnez-moi de revenir là-dessus,
je vous en
quand
prie.
Vous évoquez souvent, et c'est toujours le cas en France, les quelques personnalités qui ont critiqué, les quelques personnes qui ne seraient pas d'accord, vous évoquez une toute petite frange de ces réactions et...
Mais qu'on entend beaucoup, mais qu'on entend beaucoup.
Parisienne, à vrai dire, et je voudrais quand
mais
même
qu'on entend beaucoup.
Que cette frange est extrêmement limitée, et le débat ressemble à certains égards à ce décalage de la France et d'autres pays du monde et d'autres pays européens qui ont avancé davantage sur ces questions. Ici, la France me paraît, ou les quelques personnalités que j'ai, me paraissent extrêmement en retard sur le reste de l'évolution des choses. Certes, les 26 pièces qui vont être restituées au Bénin n'ont pas encore été restituées, mais le ministre de la Culture français était il y a quelques semaines à Cotonou pour rappeler que la restitution se fera. Donc, il est bien normal que les pays récipiendaires, les pays qui ont récupéré ces œuvres et qui réclament depuis longtemps, qu'il leur soit laissé le temps de se préparer à ces restitutions. On ne peut pas attendre que du jour au lendemain, des pièces arrivées sur une période de plus de 100 ans, par dizaines de milliers dans les musées européens, soient restituées d'un coup sans préparation. Il est absolument normal, dans une logique de nouvelle éthique de la relation, qu'on laisse le temps à ceux qui les réclament de préparer le retour de ces œuvres.
Que ça soit bien clair, hein, Bénédicte Savoie, ce n'est pas ma position. Je ne fais que relayer la position de certaines personnes, et je remets des guillemets en effet, mais que l'on entend beaucoup, que l'on lit beaucoup. Je me souviens quelques semaines après la remise de votre rapport, votre co-auteur Felwine Sarr avait parlé d'un lobby anti-restitution d'œuvres d'art. Il est vrai que ce lobby est là, fort, puissant et qu'on l'entend. Raison pour laquelle je vous interroge sur ce point-là. Mais c'est un point important parce que, effectivement, dans votre rapport, vous aviez... vous défendu l'idée d'un principe, d'une philosophie de restitution systémique. Vous aviez plaidé, je vous cite, pour un retour définitif et sans condition d'objets du patrimoine sur le continent africain.
Et c'est quelque chose que certaines personnalités citent, en effet, et c'était récemment encore dans Le Monde, cité comme un extrait de notre rapport. Ce n'est pas vrai, nous ne prenons pas un retour sans condition. Nous avons écrit un long rapport de une centaine de pages qui explique que nous proposons ou nous saluerions la restitution des œuvres qui sont réclamées par certains pays africains qui les veulent pour des raisons historiques, symboliques ou pour redonner le contact à leur jeunesse avec l'art des générations passées. Nous sommes extrêmement circonspects, nous ne parlons pas d'un retour total. Ça, c'est ce qu'on a fait certaines petites franges de l'opinion publique en France. Mais pourquoi on n'évoque jamais en France le fait que la ministre de la Culture allemande, que le ministère des Affaires étrangères en Allemagne, le fait que des grands intellectuels africains comme le philosophe Souleyman Bachir Diagne qui enseigne à la Columbia, à New York, et d'autres, pourquoi ne rappelle-t-on jamais en France que ces réactions, les réactions de ces personnes-là ont été très positives?
Alors, Bénédicte Savoie, on va vous couper, non pas parce que je... On va couper la ligne, non pas parce que je veux plus vous entendre, bien au contraire, c'est la raison pour laquelle, évidemment, on vous a invité ce matin, mais parce que la ligne est très mauvaise. Donc, on va vous rappeler et on va vous redonner la parole. J'en profite alors pour faire réagir nos invités. Christophe Babouvier et Caroline Roussy sur ce débat. C'est vrai, l'année dernière, on en avait énormément parlé et c'est vrai que peut-être une frange infime soit, mais qu'on entendait beaucoup, avait critiqué ce rapport. Qui veut Christophe Babouvier, Caroline Roussy?
Oui, alors, écoutez, si la question est de savoir si les conditions sont réunies pour... une restitution plus qu'un retour, parce que je pense que la question du retour philosophiquement peut poser question. Je pense qu'une fois encore, si on veut rompre ces relations de verticalité où la France donne des leçons, il faut faire confiance aux États africains et effectivement peut-être, comme l'a souligné Bénédicte Savoie, donner aussi du temps au temps pour que ces pays soient en capacité d'accueillir et de valoriser leur patrimoine.
Christophe Babouvier.
Au début, sous François Hollande, il y a eu un refus de la part des autorités françaises. Il y avait une lettre du ministre des Affaires étrangères de la France de l'époque, Jean-Marc Ayrault, qui expliquait que les biens qui étaient conservés dans les musées français étaient inaliénables et qu'on ne pouvait donc pas les restituer. Et il y avait sous-entendu l'idée que si on restituait à certains pays africains comme le Bénin, il faudrait restituer aussi un certain nombre de tableaux volés en Italie ou de vestiges volés en Égypte ou en Grèce. Donc vous voyez le débat qui était derrière et qui continue d'agiter en effet, vous l'avez dit, un certain nombre de conservateurs français. Il faut dire les choses,
absolument.
On va pas se cacher derrière son petit doigt. Mais je crois que la décision... d'Emmanuel Macron est politique, c'est-à-dire que soit il faut changer la loi, soit il faut la contourner pour que, en effet, un certain nombre de pays colonisés par la France dans la violence et surtout dans le mépris, c'est-à-dire ce qu'ont fait les militaires français au Bénin à la fin du 19e siècle est inqualifiable, c'est-à-dire qu'ils ont volé les emblèmes royaux du Dahomey de l'époque. Ce qui est une profonde atteinte à l'âme, à l'âme africaine, à l'âme béninoise d'aujourd'hui. Il faut le restituer, il faut le réparer. Voilà, c'est ça l'idée.
Vous évoquiez la question législative. Peut-être justement, Bénédicte Savoie, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui.
Peut-être on peut regarder où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là. Parce qu'il y a le discours et puis il y a aussi... les avancées ou non du côté législatif, et pour organiser ces restitutions, il faut procéder à un certain nombre d'évolutions législatives. Et notamment, il faut réformer le code du patrimoine. De ce point de vue-là, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a avancé ou est-ce qu'on s'est arrêté au stade du pur discours? Bénédicte Savoie.
Oui, il semble qu'en France, les choses n'aient pas été encore engagées dans le... Excusez-moi, la ligne est extrêmement mauvaise, je préfère interrompre.
Alors, on vous entend effectivement très très mal, donc on va peut-être malheureusement couper, et puis en espérant que nous aurons l'occasion de réévoquer tout cela ensemble. Peut-être Christophe Babouvier et Caroline Roussy, en rebondissant sur ce point-là, il y a peut-être une chose qu'on pourrait regarder, c'est que finalement, peut-être que la France aurait intérêt, globalement, à regarder ces questions de façon plus globale et de façon même communautaire. Bénédicte Savoie rappelait qu'elle était du côté de Berlin et que finalement, dans l'ensemble de l'Europe, on a peut-être une vision un peu différente de tout cela. Et d'une certaine manière, peut-être que cette question de la restitution des œuvres d'art, elle pourrait se penser au niveau européen. Et en réalité, cette chose-là, on pourrait l'élargir à d'autres volets, notamment au volet militaire. Est-ce que l'intérêt de la France aussi ne serait pas de penser son action militaire, sécuritaire, dans un cadre plus global, en faisant participer d'autres États membres de l'Union, de sorte à précisément un peu échapper à ce sentiment anti-français que nous décrivions les uns et les autres tout à l'heure? Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable, ce glissement, Christophe Boisbouvier, Caroline Roussy, vous y croyez ? Ou faut pas rêver, là encore, et la France a...
Sur le plan culturel, vous avez raison. Y a un phénomène européen qui est en train de se produire. Par exemple, entre la Belgique et le Congo-Kinshasa, il se passe des choses maintenant, grâce notamment à ce discours de Ouagadougou du président français. C'est-à-dire, vous avez de nombreux biens culturels de la RDC, du Congo-Kinshasa, qui sont actuellement au musée Tervuren à Bruxelles, et sur lesquels donc il y a une forte pression maintenant de la part de Kinshasa et du président Tshisekedi pour que les Belges les restituent au Congo. Donc il y a un phénomène, je pense qu'il y a un phénomène européen qui intéresse aussi les Britanniques et leur British Museum, les Portugais et les nombreux biens volés aussi par les colons portugais dans des pays comme l'Angola ou le Mozambique ou la Guinée-Bissau. Sur le plan militaire, c'est tout à fait autre chose, parce que vous avez une responsabilité qu'a prise la France au nom de son statut de grande puissance internationale présente au Conseil de sécurité. Je ne suis pas du tout sûr que l'Allemagne, par exemple, ait envie de prendre cette responsabilité. Et je ne suis pas loin de penser qu'il y a chez les Allemands une sorte de chantage très courtois, mais chantage quand même, auprès des Français. Si vous nous partagez votre siège au Conseil de sécurité, ok, on peut aller vous aider au Mali. Mais tant que vous gardez ce siège pour vous tout seul, quel est notre intérêt ?
Caroline Roussy, vous non plus, vous ne croyez pas trop à ce glissement, à cette européanisation de cette question militaire en Afrique ?
Non, pas du tout, sinon de manière très résiduelle, puisque... Enfin, un certain nombre de pays européens participent malgré tout, mais Berlin a fait savoir assez récemment qu'effectivement, il ne participerait pas à l'envoi de forces de sécurité spéciales. Donc on voit bien là...
Alors même que ce serait plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on a aussi des nouveaux acteurs qui arrivent sur place, je pense à la Russie, que pour les concurrencer, il faut mettre aussi des moyens. Non.
Oui, enfin les Russes ne sont pas encore arrivés. Donc on attendra leur arrivée effective si elle se fait. Maintenant,
Ils ne sont pas arrivés, par exemple, en Centrafrique. Ils sont arrivés, par exemple.
Oui, là, on parlait de la question du Sahel.
J'entends bien, mais j'ai dit de la militarisation de l'Afrique.
D'accord, ouais. Oui. Oui, en Centrafrique, oui.
Ils sont bel et bien là.
Ils sont déjà présents.
Et ils comptent bien, les Russes, être de plus en plus là. Il y a bien eu un sommet à Sotchi sur la politique africaine de la Russie.
Oui, mais entre ce qui a été avancé et les capacités des Russes, il y a peut-être aussi un hiatus.
Ouais. Christophe Bouvier, le mot de la fin.
L'Afrique est convoitée maintenant. Et c'est ça aussi la bonne nouvelle pour les Africains, c'est que les Chinois y viennent, les Russes y viennent. Il n'y a plus que les Occidentaux, il y en a d'autres. Et donc les Africains vont en tirer parti.
C'est justement notre sujet cette semaine, cette Afrique convoitée.
Une blabarde, on veut plus du France des phares. L'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont que des murmures, mais la clameur de la mort. Une blabarde, on veut plus du France des phares. L'histoire est en marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Yo! C'est la clameur de la rue, un cri trop longtemps.
Voilà, c'était un morceau intitulé 7 minutes contre le CFA avec un collectif d'artistes. Il y avait une dizaine d'artistes qui se réunissaient pour appeler justement à la fin du franc CFA. Merci Caroline Roussy, pardon, d'avoir été avec nous ce
matin.
Merci
beaucoup à vous.
Christophe Boisbouvier, également un grand merci. On mettra évidemment les références de vos ouvrages respectifs sur la page de Culture Monde. On poursuivra mercredi notre série consacrée à l'Afrique, puisque demain c'est la messe orthodoxe. Mais pour l'heure, 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier. Son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors on va aller du côté de l'Iran, puisqu'en ordonnant l'assassinat ciblé du général Qassem Soleimani, l'homme le plus puissant d'Iran après le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, que cherchait au juste le président américain, Brice ?
Il s'agit d'abord, selon Michael Young du think tank Carnegie Endowment, d'un message adressé autant aux dirigeants iraniens qu'à ceux de l'Irak. Trump fait savoir à ces derniers l'agacement de Washington face à l'omniprésence iranienne dans leur pays, d'où le choix du lieu choisi pour cette exécution par drone, l'aéroport de Bagdad, une manière de protester contre les allées et venues d'un militaire iranien d'un tel niveau de responsabilité dans le pays voisin. Mais plus généralement, l'administration américaine voudrait donner, au moindre frais, un coup d'arrêt à l'expansion iranienne au Moyen-Orient. Une expansion qu'incarnait précisément ce général Soleimani. On l'a vu intervenir auprès des supplétifs militaires ou politiques pro-iraniens du Liban au Yémen en passant par la Syrie et l'Irak. Selon Richard Haass, le président du Council on Foreign Relations, il s'agit d'une bourde inexcusable. Le Moyen-Orient est un théâtre miné et ne présente plus aucun intérêt pour les Américains. La guerre lancée contre Saddam Hussein en 2003 était une erreur, reconnaît cet ancien conseiller de George W. Bush. Il y avait bien d'autres moyens de contenir Saddam Hussein et sortir du guépier irakien s'est révélé bien compliqué. Obama a bien fait, dit-il, d'entamer le pivot vers l'Asie. Les Américains sont autosuffisants en pétrole et en gaz grâce aux techniques d'extraction des schistes. Washington ferait mieux de se préoccuper des ambitions chinoises en Asie et des menaces russes en Europe. En outre, poursuit Haass, Trump a été élu sur un programme de recentrage des Américains sur leurs propres problèmes, d'où d'ailleurs la popularité du slogan « America first ». Mais pour lui, ce sont les Iraniens qui portent la responsabilité du changement de ton à Washington. L'administration Trump ne pouvait assister les bras croisés aux attaques de pétroliers dans le Golfe, aux bombardements de raffineries en Arabie Saoudite, il y en allait de la crédibilité de l'alliance américaine dans la région. En outre, dit-il, les républicains sont particulièrement sensibles à toute attaque des représentations diplomatiques américaines dans le monde. Et en s'en prenant à leur ambassade à Bagdad la semaine dernière, les chiites irakiens soupçonnés d'agir sous l'influence de l'Iran ont réactivé le traumatisme de la prise d'otage du personnel diplomatique américain à Téhéran en novembre 1979.
Autre réaction, Brice ? Autre analyse ?
Trump prétend avoir ordonné cet assassinat pour éviter une guerre, écrit Javad Salehi Isfahani, un économiste réputé, spécialiste du monde arabo-persan, mais il risque au contraire d'en déclencher une. C'est qu'il a très mal mesuré les conséquences prévisibles de cet acte parce que simplement il ne connaît rien à l'Iran. Après avoir dénoncé l'accord sur le désarmement nucléaire conclu par son prédécesseur, il a imaginé, Trump, provoquer l'effondrement du régime des Mollahs. Il a misé sur ces fameuses pressions maximales, or le régime tient bon. Non seulement les manifestations de rue récentes ont été réprimées avec une telle violence qu'elles ne peuvent pas déboucher sur la révolution tant désirée par les Américains, mais ce genre d'exécution ciblée ne peut que contribuer à renforcer la position des durs du régime à Téhéran. Et Salehi Isfahani de citer George Orwell. Une conception erronée finit par buter sur une solide réalité, généralement sur le champ de bataille. Les commentateurs consultés reconnaissent tous deux choses. Certes, la gamme des moyens disponibles du côté iranien est étendue. Cependant, le leadership iranien veillera à ne pas déclencher une guerre ouverte avec les États-Unis. L'asymétrie des forces ne lui permet pas une telle escalade. En outre, déclencher une guerre, ce serait tomber pour l'Iran dans le piège où tous ses ennemis voudraient le voir tomber. Les monarchies sunnites du Golfe, bien sûr, mais aussi Netanyahou, qui rêve aussi d'entraîner les Américains dans une confrontation ouverte avec Téhéran. En vérité, cela fait des décennies qu'Américains et Iraniens sont en état de guerre larvée, estime Shlomo Ben-Ami. Bien d'autres assassinats ciblés ont visé des responsables de milices chiites pro-iraniennes comme Imad Mughiniya, le chef d'état-major du Hezbollah, tué en 2008. Et de son côté, l'Iran est impliqué dans de très nombreux attentats, comme celui commis contre le centre communautaire juif de Buenos Aires en 1984. Et Soleimani lui-même est bien soupçonné d'avoir participé à l'attentat commis contre un quart de touristes israéliens en Bulgarie en 2012. Frappé par les sanctions américaines, l'Iran mène une guerre d'usure contre les alliés des États-Unis dans tout le Moyen-Orient. Il a profité de la guerre civile en Syrie et au Yémen pour renforcer militairement les différentes milices qui lui servent de supplétifs. La mort de Soleiman n'est pas de nature à changer le jeu au Moyen-Orient, car une réaction disproportionnée pourrait bien se solder tout simplement par l'expulsion des forces iraniennes de Syrie, ce qui ne serait pas entre parenthèses pour déplaire aux Russes. De toute façon, Téhéran attendra le résultat des élections américaines de novembre avant de définir sa stratégie.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Rendez-vous mercredi, Brice, dans un très court instant, Olivia Gesbert et La Grande Table.